dernier World Economic Forum à Davos, donc janvier, le Global Risk Report, donc qui est publié, donc qui est quand même une étude assez sérieuse, qui fait référence, sort un classement des global risks, c'est-à-dire des risques les plus préoccupants pour le monde de l'économie, les dirigeants, etc. Numéro 1, misinformation and disinformation.
Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lacnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Jérôme Lacombe, cofondateur et président de WeTrust, une entreprise spécialisée dans la mise des nouvelles technologies au service d'une communication efficace et responsable. Dans cet esprit, notre conversation traite de la lutte contre les fake news. Jérôme commente notamment son parcours, les trois motivations des manipulateurs d'informations, l'ampleur du risque représenté par les fake news, la pratique des dark PR, des exemples marquants de désinformation, la solution WeTrust de certification instantanée des contenus, son fonctionnement et son développement commercial, l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les risques de désinformation encourus par les internautes et les prochaines échéances européennes. Jérôme, bonjour et merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Eh ben, je m'en doute. Jérôme, alors on va commencer ton parcours à tes études, parce que tu as deux parcours estudiantins, dont un était un peu précurseur à l'époque. Tu as fait Sciences Po Lyon, tu vas nous dire pourquoi tu as choisi cette voie. Et après, avant que même Internet existe, tu as fait une spécialisation à Dauphine en sciences de l'information, voilà, qui révèle un don d'anticipation certain. Donc raconte-nous un peu ce double choix, s'il te plaît.
Alors ça, c'est si on post-rationalise.
On post-rationalise toujours.
Non, en fait, c'est un peu le hasard qui m'a conduit à Sciences Po. C'est un peu moins le hasard qui m'a conduit ensuite à faire un troisième cycle. À l'époque, on appelait ça un diplôme d'études approfondies. C'était très sérieux. Disons que c'est entre une maîtrise et un doctorat, quoi, entre les deux. Voilà, sur ce qu'on appelait de façon très savante à l'époque les sciences de l'information. C'était toute une série de sujets avec des auteurs comme von Neumann, des gens comme ça qui travaillaient beaucoup sur la science des organisations, théorie des jeux, théorie du chaos, comment se diffuse l'information dans une organisation. Alors c'était encore balbutiant. À l'époque, Internet n'existait pas. Ça fait un peu ancien combattant, mais c'est la vérité. On utilisait les emails, on utilisait les forums, mais bon, c'était quand même assez balbutiant. On travaillait sur un sujet qui était ARPANET. Donc le réseau du ministère de la Défense américain qui a ensuite donné naissance progressivement à ce qui s'appelle aujourd'hui l'Internet. Donc c'était assez intéressant. On nageait un peu dans ces sujets sans savoir trop ce que ça allait donner, mais c'était effectivement c'est des thématiques qui m'ont conduit assez rapidement à m'intéresser à la communication. Puisque mon premier job était d'être attaché de presse.
Edelman, non ?
C'était. Alors, oui, ça c'est. Mon premier job était dans une agence qui s'appelle Delet et Associés, qui était une agence française, une agence épatante, qui travaillait notamment, qui conseillait toute une série de grands clients comme le groupe Pernod Ricard. Et ensuite, effectivement, je suis allé chez Edelman et j'ai créé le bureau d'Edelman à Paris avec une autre personne. Voilà. Donc, si je reviens aux sciences de l'information, c'est effectivement ça qui m'a conduit à m'intéresser à une combinaison, un cocktail, d'un côté de communication, de contenu, de stratégie d'information et de l'autre côté de technologie. En quoi est-ce que la technologie peut faire évoluer nos pratiques professionnelles? Et je suis tombé donc dans ce mélange, très vite, quoi. Très vite.
Et donc après, ouais, passons à ton parcours professionnel du coup, Jérôme. Donc t'es, comme tu expliquais, t'es tombé dans les PR assez vite, sachant que ça n'est pas une chute évidemment, et que tu as créé donc le bureau Edelman France. Comment ça s'est passé c'est eux qui sont venus te chercher, c'est toi qui as démarché Edelman pour proposer la création de cette organisation?
Non, j'ai été chassé. En fait, j'étais à l'étranger. Je travaillais, j'étais, comme on dit à l'époque, VSNE. Donc, c'était mon service national, non pas dans l'armée, mais au service de la France, au service de l'économie française. Et on m'a chassé, tout simplement. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui puisse faire du commercial. Je suis arrivé dans cette entreprise où j'étais le numéro 2 et il y avait une dame qui dirigeait cette boîte, mais elle venait d'être créée, hein, ça faisait quelques mois qu'elle avait été créée. Et un jour, elle m'annonce que, ben voilà, tiens, tu prends les clés, c'est toi qui diriges parce que moi je m'en vais. Voilà. Elle était enceinte, en fait, et elle m'a laissé les clés, et puis ça s'est très bien passé. À l'époque, la personne qui dirigeait le groupe Edelman, c'était encore Daniel J. Edelman, c'est-à-dire le fondateur, ouais. Qui était un monsieur impressionnant. Il était, je crois, en charge de la Voix de l'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un monsieur qui avait déjà plus de 80 ans, hein, quand j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis maintenant, c'est son fils, Richard, qui dirige la boîte avec beaucoup de succès. C'est devenu le numéro un mondial de son marché. Donc, c'est une très belle réussite et je suis ravi d'y avoir contribué petitement il y a quelques temps.
Bon, et après, raconte-moi l'aventure Moreau-Lacombe.
Alors, en fait, c'était une filiale du groupe Grey à l'époque. C'est-à-dire, j'ai quitté Edelman, j'ai rejoint le groupe Grey qui avait créé une société qui s'appelle GCI Group, qui en gros conseillait les entreprises en matière de relations publiques et en matière de communication corporate et financière. Voilà. À l'époque, on appelait déjà ça communication corporate. C'était un peu le début aussi. Cette société, je me suis avec Gilles Moreau qui était mon associé, on s'est rapidement retrouvé à la tête de cette société, le dirigeant étant parti à d'autres affaires, et donc on a développé cette société avec le soutien du groupe Grey. Nous étions bien sûr associés, enfin actionnaires dans cette société, et ça a très bien marché, c'est-à-dire que ça s'est développé assez vite pour que l'agence compte à peu près 80 personnes, entre 80 et 100 personnes quand je l'ai quitté pour créer Hopscotch.
Voilà, avec tes petits camarades bien connus.
Alors Hopscotch, je l'ai Hopscotch Group aujourd'hui, c'est le résultat de la fusion de Hopscotch que j'avais créé en 2000, l'agence conseil en RP, en com digital, en e-réputation, comme on dit. Et donc c'est le résultat du rapprochement de Hopscotch et de Public System, qui était la plus belle boîte d'événementiel de Paris, avec une équipe de choc, hein, notamment avec Fred Bedin, etc. Et on a créé ensemble, en travaillant ensemble, on a créé Hopscotch Group, qui aujourd'hui est l'une des, je crois que c'est l'une des plus grosses agences à Paris, qui fonctionne très bien.
Ça doit être le numéro un indépendant, ouais.
Et l'un des premiers en Europe aussi. Ouais.
Donc, raconte-moi un peu, du coup, cette aventure et pourquoi tu as quitté Hopscotch, du coup, en 2013.
Je suis parti parce que c'était toutes les fois d'avant, un projet que j'avais envie de mener et que je pensais ne pas pouvoir mener en parallèle de mon activité professionnelle. Quand on a envie de faire les choses à fond, on peut pas faire 3-4 choses en même temps. Donc, ma volonté était à l'époque, c'est un peu incongru, mais qui était de créer une agence automatique. C'est-à-dire, c'était de faire dans le domaine des RP un peu ce qui s'est passé dans le domaine du marketing, enfin du marketing opérationnel, c'est-à-dire une automatisation de plein d'éléments rendus possibles par l'essor de la technologie et notamment le développement d'Internet. Et donc l'idée était de constater que les équipes com étaient pas vraiment bien équipées en outils technologiques. Quand on compare ça aux gens du marketing ou des ventes, Il y a Salesforce qui était arrivé quelques années auparavant, qui est quand même une réussite formidable et qu'aujourd'hui, un vendeur ne pourrait pas travailler sans CRM. Eh bien, il y a quelques années, des équipes communication travaillaient encore avec des tableurs Excel, avec des emails Outlook. Et quand j'envoie un communiqué, je l'envoie à une liste de diffusion qui est dans mon répertoire Outlook, etc. etc. Et donc, qui avait toute une série. Je sais. Je sais, et d'ailleurs, ce ne sont pas de mauvais outils. C'est pas ce que je veux dire. C'est que c'est très bien, ça peut être très efficace. Ça présente quelques contraintes, notamment RGPD. Il y a un certain nombre de contraintes quand on utilise ces outils comme ça, mais ça fonctionne bien. En fait, on s'est aperçu assez vite que les équipes de communication avec deux ou trois problèmes principaux, en tout cas qui pouvait nous concerner. Le premier, comment je transforme mes process, comment j'organise mon équipe mieux, comment j'utilise la techno pour faire ça plus vite. Voilà, c'est pour faire simple, comment je fais dans la com ce que d'autres ont fait dans les ventes il y a quelques années. Deuxièmement, c'est... c'est bizarre ce qui se passe, c'est problématique sur Internet, tout le monde donne son avis, on commence à être challengé, les médias se font doubler, etc., etc. Il y a une grande fragilité, volatilité de ma réputation, enfin de la réputation de mon entreprise ou celle de mon patron. Il commence à y avoir pas mal de fake news. Qu'est-ce que je peux faire dans ce contexte? Voilà, deuxième chose, avec un métier, la com de crise, qui a toujours été très maîtrisé et très bien maîtrisé en France, mais là on rajoutait une couche, qui était une couche d'effervescence un peu techno. Donc ça c'était le deuxième point principal. Et puis le troisième c'était la donnée en fait. L'une des corvées quand on travaille dans la com, c'est de faire du reporting. Enfin, ceci dit, c'est l'une des corvées dans à peu près tous les métiers, mais dans la com en particulier, et notamment parce que c'est une discipline qui est très manuelle encore, qui est pas du tout une discipline, en tout cas à l'époque.
Au départ, c'est pas automatisé.
Voilà, et que aujourd'hui, avec des outils, on peut vraiment. Aujourd'hui, on travaille même avec des outils qui nous permettent d'aller brancher des flux d'analyse de réputation dans des outils de business intelligence. Désolé si je suis un peu technique, mais on branche un tuyau, c'est de la plomberie, hein. On branche un tuyau dans Power BI, par exemple, de Microsoft, ouais. Et on a des clients qui récupèrent et qui agrègent de la donnée de RP ou de Com Corporate et la mélangent avec des données de vente, avec des données, tout ce que tu veux. Et ça, à l'époque, bon, ça n'existait pas, c'était pas au point. Et c'était aussi l'un des enjeux. Donc, un DIRCOM, il avait en gros plusieurs problématiques, mais parmi ces problématiques, la technologie pouvait aider à l'organisation, la transformation des process, à la génération de données pour faire un reporting de qualité, et puis aider aussi à comment je maîtrise un peu mieux cet environnement qui devient pas seulement hostile, mais compliqué à comprendre.
Donc, ça, c'était le projet de départ de ce qui va devenir WeTrust. Donc, à quel moment as-tu pivoté, comme on dit ?
Pivoter entre quoi? Entre WeTopic qui est devenu WeTrust, oui. Ou entre Hopscotch et WeTopic?
Non, WeTopic, WeTrust.
Alors, oui, parce que juste pour le préciser, quand j'ai créé WeTrust, ça s'appelait WeTopic au départ. Hein, on a changé de nom il y a quelques temps je pourrais expliquer la raison. En fait, on a créé WeTrust, je vais dire comme ça, hein, ce sera plus simple. On a créé WeTrust en développant une plateforme qui est destinée aux équipes communication, notamment RP, mais ça peut être aussi relations investisseurs, donc qui est destinée à ces équipes, plutôt dans des grandes entreprises, et qui leur permet de faire quatre choses principalement, de gérer leurs ressources. Hein, alors les ressources d'une équipe com, c'est quoi? C'est des fichiers de contact, c'est des contenus, des photos, des vidéos, enfin tout ça est assez concret, mais comment on peut optimiser la gestion, l'indexation, le référencement naturel de ces éléments-là? La deuxième chose, c'est la distribution, comment on peut diffuser de l'information de façon efficace, maîtrisée, programmable. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'automatisation de process. C'est en gros comment je peux, d'un point unique, diffuser une information via 5, 10, 12, 20 canaux et de paramétrer tout ça. Donc ça, c'était notre la deuxième partie de WeTrust. Et la troisième, c'était la mesure, la donnée, etc. Et on a rajouté une quatrième, une quatrième plateforme ou une quatrième fonctionnalité, comme on dit dans notre jargon, c'est pas très joli, mais c'est comme ça, qui est la certification de l'information dans la blockchain. Et ça, c'était, et c'est d'ailleurs toujours, même si ça a évolué depuis, la solution qu'on propose pour lutter contre les fake news, préserver les entreprises de la désinformation. Voilà, en gros. Et ça, on a commencé à commercialiser cette plateforme il y a à peu près 3 ans. La prise de conscience a été progressive. Et là, maintenant, effectivement, le contexte étant ce qu'il est, on a un vrai boost, une vraie accélération sur l'adoption de cette technologie. Alors, c'est très bien, on est ravis parce que c'est notre techno, mais aussi parce que on est d'une certaine manière, c'est un peu péremptoire, mais d'une certaine manière en train de créer ce qu'on appelle un écosystème de confiance, c'est-à-dire des émetteurs qui vont certifier leur information, l'authentifier, la rendre vérifiable, et puis des destinataires de cette information, des investisseurs, des journalistes qui vont pouvoir la vérifier. Donc, en fait, pas de confiance, pas de marché. En fait, c'est ça. Et encore moins des marchés financiers. Ouais. Donc le fait de pouvoir assurer cette confiance dans cet écosystème, effectivement, c'était notre objectif et on est ravis parce que c'est un objectif qu'on a atteint sur le marché français, qu'on n'a pas encore atteint sur d'autres marchés, même si aujourd'hui WeTrust est utilisé dans une 60aine de pays.
On va en reparler tout à l'heure quand on parlera du développement international. Avant justement d'en venir à la lutte contre les fake news qui va être le cœur de notre conversation, parle-nous un peu de ton activité d'investisseur que tu mènes en parallèle à celle d'entrepreneur.
Oui, alors c'est une activité en fait que j'ai toujours eu. Alors ça me prend très peu de temps. Hein. C'est pas du tout mon activité professionnelle, mais j'ai toujours eu cette en fait la première société que j'ai créée, qui n'était pas la société dans laquelle je travaille, c'était pratiquement au moment où j'ai commencé à travailler. C'est généralement des rencontres, hein, des idées. La volonté, alors parfois avec des activités très très diverses, mais la plupart du temps dans des secteurs que je comprends. C'est généralement pas très malin d'investir dans des secteurs qu'on comprend pas, généralement ça aide pas. Et donc dans le domaine de la communication, du marketing, du digital. Voilà. Mais il y a eu aussi société de coaching, il y a eu aussi des plateformes d'e-commerce. En fait, parmi peut-être des startups dont tu aurais entendu parler, il y a une Minute Buzz par exemple. Minute Buzz, okay. Qui est devenue Vertical Station, qui maintenant fait partie du groupe TF1. Minute Buzz était une initiative d'un jeune type épatant, Max Barbier, qui avait quelques idées. On s'est rencontré, il avait besoin de soutien, et ben je lui ai apporté un soutien, voilà. Et donc c'est une activité que j'ai conservée, même si depuis maintenant quelques années j'y passe moins de temps parce que je suis particulièrement occupé avec WeTrust.
Alors, on va venir justement au sujet auquel, ou en tout cas à l'enjeu auquel WeTrust contribue, qui est donc la lutte contre les fake news. Alors moi, j'aime bien toujours commencer les entretiens, les conversations par les fondamentaux. Donc on va essayer d'abord de dresser le paysage des fake news aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux nous parler d'un côté du développement des fake news et de l'autre des stratégies à la fois des médias et des acteurs de l'actualité pour contrer le dit développement ?
Alors, je vais peut-être commencer par qui est à l'origine. Il y a deux types de désinformation. D'ailleurs, les Américains ont deux mots, misinformation and disinformation. Alors, pour faire simple, même si c'est plus compliqué que ça, la différence entre les deux, c'est le caractère malveillant. C'est j'ai la volonté de nuire, voilà. Et dans l'autre cas, c'est juste un gloubi-boulga qui est diffusé, qui est, disons, sans volonté de nuire. Voilà.
En gros, tu l'as fait à l'envers, Jérôme. C'est le misinformation qui est sans volonté de nuire.
Et
le
oui, pardon. Qui est en volonté de nuire. C'est dans l'autre sens. Exactement. Exactement. Tu as raison. Si on regarde donc dans tout ce qui est des informations volontaires, quelles sont les motivations qui est à l'origine de ça? Il y a trois familles de motivations. La première, c'est l'activisme. En gros. Extinction Rébellion, qui veut s'en prendre à un fonds d'investissement qui investit lourdement dans les centrales à charbon. Bon, je manipule son information. Je reviendrai peut-être à la mécanique dans un instant.
On en parlera après, absolument.
Donc, des activistes qui veulent communiquer, attirer l'attention sur les méfaits, les conséquences néfastes de l'activité économique d'un fonds, d'une entreprise, etc. Deuxième catégorie, les escrocs. Comment je peux gagner de l'argent en manipulant le cours de sociétés cotées ou éventuellement le cours de crypto-monnaies. C'est mieux les crypto-monnaies parce qu'on se fait pas choper. Voilà, ça c'est aussi une motivation, c'est l'escroquerie. Je pense, une bonne moitié des cas qu'on a croisés. Et puis troisièmement, et là c'est beaucoup moins visible, mais on sait que c'est réel, c'est tout ce qui est concurrence malveillante. On est sur un gros deal, on est en train de discuter sur un gros contrat et oh, pas de pot, il y a un concurrent qui débarque d'on ne sait trop où et par exemple chinois et le lendemain on a toute une série de saletés qui sont racontées sur le dirigeant de l'entreprise, etc., etc. Non, je suis vache parce que c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la plupart des cas, mais voilà. Donc activisme, escroquerie à pas du gain et concurrence malveillante. Avec, dans tout ça, et notamment côté escroquerie, cette notion de canular malveillant, c'est-à-dire je vais manipuler les gens, en fait. Notamment, je vais manipuler des journalistes. Je vais essayer de faire en sorte que... Et je vais m'appuyer sur les difficultés qu'ils ont à faire leur job correctement aujourd'hui. Quand je dis difficultés, c'est que... Il est difficile aujourd'hui pour un journaliste de faire son job. Leur environnement est compliqué. Leur environnement, crise économique des médias, c'est clair, et c'est pas nouveau, mais c'est sa tendance à s'amplifier. Accélération du temps, hein, vraiment, ça va tellement plus vite. Concurrence des ce qu'on appelle les médias sociaux, les réseaux sociaux. Enfin, tout ça rend la vie des médias compliquée. Et donc c'est surtout l'accélération du temps, en fait, qui fait qu'il est difficile pour eux de ne pas se faire choper dans des mécaniques de diffusion de fausses informations. Je suis même étonné qu'il n'y en ait pas plus, en fait.
Alors, justement, est-ce que tu as des données, Jérôme, qui rendraient compte de l'évolution du phénomène en volume ou autre sur la désinformation au sens français du terme, donc double par rapport au sens anglais et des fake news en général?
Je ne vais pas t'assommer avec des chiffres, mais juste deux choses. Dernier World Economic Forum à Davos, donc janvier, enfin il y a deux mois, le Global Risk Report, donc qui est publié, donc qui est quand même une étude assez sérieuse, qui fait référence, sort un classement des global risks, c'est-à-dire des risques les plus préoccupants pour le monde de l'économie, les dirigeants, etc. Numéro 1, misinformation and disinformation. Avant la crise climatique, avant toute une série de... Excuse-moi, c'est... je ne sais pas si elles reprennent, mais en tout cas, on m'appelle. Attends, où en étais-je?
Tu étais sur le global risk.
Numéro 1, misinformation, disinformation, ce qui est quand même très, très étonnant. Puisque il y avait eu des études, la société Kroll, qui fait des enquêtes beaucoup aussi, avait sorti une étude il y a quelques années qui plaçait la désinformation assez haut. Mais là, numéro un, risques principaux à court terme, dans les 2 ans. Et quand on pose la même question sur les 10 ans, la réponse est un peu différente. Il y a d'autres risques qui prennent le dessus, mais le risque de désinformation reste numéro 5. On peut voir ça de façon pessimiste. Moi, je le vois de façon plutôt optimiste, c'est-à-dire que le monde de l'économie estime qu'on va trouver des solutions pour passer ce risque du numéro 1 à numéro X. Voilà.
Ouais, c'est très surprenant parce que moi, j'aurais plutôt mis l'inverse, qu'avec l'IA, l'impact maximum de l'IA va pas être dans les 2 ans à venir. Ça va être plutôt après. Donc, c'est très étonnant.
C'est
tout à fait bienvenu, on va dire.
Ah bah, si on n'est pas optimiste quand on travaille, quand on est à la tête d'une boîte, il faut changer de métier.
On peut arrêter, oui.
Voilà. On peut être optimiste et parano en même temps. Hein. C'est souvent une combinaison utile. Voilà. Revenons à ces deux chiffres. Donc ça, c'était le premier, ce classement. Et il y a eu une université aux États-Unis qui a fait une étude il y a quelque temps et qui évalue à 27 milliards de dollars l'impact de la désinformation économique et financière. Avec des modèles, des équations assez précises, donc je ne contesterai pas leur modèle, on peut toujours en discuter.
Alors, les 27 milliards, ça concerne quoi? Ça concerne la valo des boîtes de côté ou ça c'est calculé comment les 27 milliards?
Alors, ça concerne pas la valo, ça concerne une évaluation des problématiques de réputation. Une évaluation de l'impact que peut avoir sur le comportement d'un actionnaire d'une fausse information publiée. En fait, oui, c'est lié à l'évolution, à la manipulation du cours de l'action. Hein. Mais pas seulement.
Ça paraît un chiffre très faible, du coup.
C'était il y a quelque temps, et c'est vraiment ce que disent les responsables qui ont commis cette étude. Ils expliquent que c'est vraiment un chiffre minimum. C'est celui qu'ils peuvent démontrer. Ça peut être beaucoup plus, mais au moins, on sait que ça, c'est une réalité. Voilà. Alors, des cas de fake news, comme je les ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire avec ces activismes, etc. Je pense qu'on est cette année, depuis le début de l'année, à x2 de ce qu'on était au dernier trimestre de l'année dernière, qui était déjà à x2 du trimestre précédent. C'est-à-dire, il y a vraiment un développement rapide, très rapide, des impacts qui peuvent être des impacts assez variés sur la vie des entreprises, que ce soit effectivement sur leur réputation. Enfin, quand on se fait usurper son identité, c'est jamais très agréable. Hein. Tu imagines, ce qui se passe dans la tête d'un DIRCOM quand il découvre le matin que son patron s'est fait usurper son identité et qu'il y a un article qui est sorti où c'est lui qui parle, alors que non, ce n'est pas lui qui parle.
Oui, ou alors qu'il est mort, alors qu'il est vivant, comme il y a eu l'exemple il y a quelques années.
Exactement. Donc, il peut y avoir ça aussi. Voilà. Donc, il y a une forte accélération, effectivement, aujourd'hui. C'est des mécaniques qui peuvent être diverses. Hein, mais grosso modo, ce qu'on rencontre chaque fois, ou la plupart du temps, c'est faux émetteurs. Ça peut être une fausse adresse mail un faux DIRCOM hein, qui diffuse une fausse information donc par mail et qui propose pour pouvoir la vérifier un faux site internet, éventuellement un faux numéro de téléphone ou un journaliste qui veut faire son job correctement. Donc il voit le numéro de téléphone sur le communiqué. Il prend le téléphone, il appelle, il tombe sur un faux DIRCOM, sans savoir que c'est un faux DIRCOM, qui va lui confirmer comme étant vrai la fausse information. Voilà. Donc, c'est une mécanique un peu théorique, ce que je viens de présenter, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, le faux communiqué, c'est quand même le sujet de prédilection, même s'il peut y avoir aussi des interventions sur les réseaux sociaux, etc. Mais là où il y a le vrai impact, et là, on se rend compte encore de l'impact des médias. Bien évidemment, on parle de l'impact des réseaux sociaux, etc. Quand Bloomberg fait une dépêche ou quand TF1 passe une info au JT de 20h, forcément, ça a énormément d'impact, et notamment sur les marchés financiers. Enfin, plus Bloomberg que TF1, mais bon, quand même.
Pour rebondir sur ce que tu disais, Jérôme, peut-être on peut parler un peu du phénomène des dark PR que tu commençais à évoquer. Donc raconte un peu à nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers avec ça, ce dont ils relèvent.
Pour aller directement à l'essentiel, ce sont des officines, des agences, appelons ça des agences, dont l'objectif est de défendre les intérêts de leurs clients en diffusant, disons par tous les moyens, y compris la diffusion de fausses informations.
Ce que tu décrivais d'ailleurs, faut dire comme, faut communiquer, faux site, etc.
Ça peut être d'autres techniques, c'est-à-dire par exemple ce qu'on appelait les fermes, les fermatrolls, donc des gens qui sont payés à raconter n'importe quoi sur des réseaux sociaux. Alors je ne parierais pas sur la longévité de ces fermatrolls avec ce qui se passe avec l'IA aujourd'hui. On n'a plus besoin de toute cette quantité de gens pour fabriquer des faux contenus. Une bonne IA permet de faire le job beaucoup plus simplement.
De manière beaucoup plus plus personnalisé en plus. Donc,
voilà. Donc, c'est ça. La première chose, c'est défendre les intérêts de ses clients, quelles que soient les méthodes. Voilà, enfin, quelles que soient. Il y a des limites, mais en tout cas, en diffusant des fausses informations, en manipulant l'opinion. Alors, certains pourraient dire, oui, mais bon, les RP, c'est ça. Non, les RP, c'est pas ça. Les RP, c'est pas ça. Les RP, c'est enfin, ma définition des RP, alors elle est peut-être très personnelle, mais c'est d'arriver à trouver un équilibre entre une organisation, une entreprise et son environnement et les parties prenantes qui agissent sur elle, qui interagissent et qui lui permettent de réussir ou éventuellement d'échouer dans ses initiatives économiques. C'est ça, les RP. Et donc, et dans les RP, il y a un code de déontologie. Alors, ça peut être un gros mot pour certains, mais c'est la réalité. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Voilà.
Voilà, il y a un enjeu de confiance qui repose sur un enjeu d'éthique. Donc, on est quand même à l'opposé des dark PR.
C'est-à-dire, à un moment, comment dire, la confiance, ça se mérite. Et quand on travaille dans un environnement de confiance, on est 10 000 fois plus efficace que quand on travaille dans une situation de défiance ou disons, de doute.
Alors, Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter un ou deux exemples de cas de désinformation? Pareil pour les auditeurs qui peut-être ne les auraient pas en tête. Alors, moi, il y en a un qui est extraordinaire, c'est la fausse lettre de Larry Fink, évidemment. Et puis, j'ai découvert dans un des rapports que tu m'as donné à lire pour préparer l'interview, l'exemple d'Adidas qui est plus récent. Mais bon, t'en as peut-être d'autres dont tu as envie de parler, donc je te laisse choisir. Mais au moins, parle-nous de celui de Larry Fink parce que, voilà, c'est quand même l'exemple qui décrit par le menu tout ce que tu nous as raconté depuis 10 minutes.
Bah, c'est un peu ça, effectivement. Alors, BlackRock, premier investisseur mondial. Hein, donc, autant dire que monsieur Lawrence Fink, qui est à la tête de cette affaire, est un monsieur très écouté. En fait, si on voulait être un peu trivial, c'est le parrain de Wall Street. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je pense que BlackRock est dans la plupart des grandes entreprises cotées du monde. Je sais plus combien il y a de trillions de dollars, mais bon, il y a beaucoup de c'est des fonds très importants. Il faut savoir qu'on a en Europe et d'ailleurs l'un de mes clients favoris est aussi un très gros fonds qui s'appelle Amundi, qui est qui est leader européen, et on a de très très belles boîtes dans l'asset management en France. Hein, c'est un vrai métier qui est bien maîtrisé dans notre pays. Revenons à BlackRock. Donc, Monsieur Fink, chaque fois en début d'année, il diffuse une lettre qui s'adresse au marché, qui s'adresse à ses clients, etc., où il donne son avis, il fait une analyse sur, en gros, comment il voit l'évolution du marché. Ce qui s'est passé, enfin voilà, quelque chose de très très subtil, parce que dès que ce monsieur dit un truc, il a une telle puissance que ça a un effet macroéconomique, donc il faut qu'il soit très attentif, voilà, c'est très soft. Voilà. Exactement, c'est très soft, pour employer les termes simples, c'est super soft. La dernière lettre qu'il diffuse, alors c'était il y a 2 ou 3 ans,
je crois que c'était en 2019.
Voilà, bah alors ça fait 4 ans, 5 ans, un journaliste du FT reçoit la lettre, la lit et s'aperçoit que même si c'est très subtil et très délicat, il y a un truc qui, visiblement, si j'interprète ce qu'il dit, c'est que BlackRock envisage de sortir des énergies carbonées, quoi. Et quand on a le premier investisseur mondial qui sous-entend ça, ça a quand même un impact. Voilà, article, boum, dans le FT, repris dans plein de médias, normal, grosse information. Le FT, bah, c'est quand même le FT, quoi. C'est Financial Times, c'est quand même une référence. C'est un peu dans le secteur des médias financiers ce que BlackRock est dans le secteur de l'investissement. Voilà. Pas de pot, Larry Fink n'avait pas envoyé cette lettre. Cette lettre est partie quelques jours avant le moment où il envisageait d'envoyer la sienne. C'est un groupe d'activistes qui s'appelle les Yes Men, qui est un groupe d'activistes qui est très doué pour le happening médiatique, pour des choses comme ça, et qui avait fait une fausse lettre qui ressemblait, à s'y méprendre, à une vraie lettre de Larry Fink, qui aussi pointait sur un faux site. Donc, en fait, comme l'info était très croustillante, très importante, enfin une belle info, et que le FT voulait la sortir très vite, tout de suite, être le premier, bah, le processus de vérification a été très rapide et les journalistes qui ont vérifié ont été pris donc dans cette mécanique où même l'outil de vérification, en l'occurrence un site, était manipulé. Voilà. Pas d'impact sur un cours de bourse, non. Pas d'impact massif sur des comment dirais-je, sur des secteurs économiques, parce qu'il y a eu un démenti très rapidement. Simplement, bon, un impact sur la réputation de deux acteurs du monde de la finance quand même qui sont référents, BlackRock et le FT. Voilà. Voilà. Quand il s'agit d'une société cotée, ça peut être plus embêtant parce que là, on peut avoir des actionnaires qui souffrent de la chute d'un cours parce qu'il a été manipulé. Et là, vraiment, là, il y a un autre enjeu qui est plutôt un enjeu qui est pas uniquement de réputation, mais qui est un enjeu sonnant et trébuchant, quoi. Oui. Et juridique, en fait.
Tu peux avoir des class action derrière et autres.
Ben, des class action ou même. Alors là, pour l'instant, c'est très discret. On n'a pas encore vécu ça de façon évidente, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même des fonds activistes dans leur actionnariat. Et tous les moyens sont bons quand on est un fonds activiste pour aller challenger le management. On est là pour ça.
On est là depuis quelque temps.
Mais c'est la vie des marchés. Voilà, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Quelle que soit la responsabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est de la responsabilité de l'entreprise que cette fake news ait été publiée par telle agence de presse financière, ou est-ce que c'est la responsabilité de l'agence de presse financière, etc. Quelle que soit la responsabilité, l'impact, il est sur l'actionnaire, et l'actionnaire, il peut très bien dire, écoutez les gars, très bien, le journaliste a peut-être pas fait son job, mais on sait très bien qu'il va très vite, et vous n'avez rien fait pour éviter que le journaliste publie un article qui est une fausse information. Donc vous êtes responsable. Donc vous me devez tant. Donc je vous attaque en justice, etc., etc. Donc ça montre, et notamment des cas d'action en justice. Hein. Il y a le cas Vinci par exemple, où l'AMF, il y a eu quand même une condamnation de Bloomberg qui a été confirmée en appel. Alors l'amende a été un peu réduite, mais au global quand même, il y a déjà des actions judiciaires, que ce soit par l'autorité de tutelle ou par d'autres entités, qui sont liées à des fake news corporate et financières.
Alors, deux points, Jérôme. Pour rappeler Vinci, il faut dire qu'il y avait eu un faux communiqué, si je me souviens bien, annonçant la découverte d'une fausse fraude, du coup. Et deuxième point, tu me fournis la parfaite transition pour parler de la protection que les entreprises peuvent mettre en place pour éviter justement d'avoir affaire à ces affres juridiques, qui est donc WithTrust. Donc on va maintenant se concentrer sur ton entreprise, ta solution dans cette deuxième partie de notre conversation. Alors premier point, quand tu as pivoté avec ton associé de WithTopic à WithTrust, quel a été le déclencheur? Comment vous avez été inspiré de créer cette solution qui est à la fois maligne et original?
Oui, j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais je ne suis pas seul à avoir créé WithTrust. Raphaël Labbé, donc mon associé depuis la création de la boîte. Raphaël vient d'un monde, le monde des médias et le monde de la technologie. Il était notamment patron de l'innovation du groupe Express Roularta, devenu Altice Média. Voilà. Et c'est quand on a constaté effectivement que le phénomène de la désinformation financière prenait de l'ampleur, qu'on s'est dit, c'est une problématique technologique, pas uniquement technologique. Faire un faux communiqué, c'est pas de la technologie, c'est plus du graphisme ou du copier-coller, on s'est rendu compte que la technologie pouvait être une solution. On s'intéressait très très près à la blockchain et à ce que pouvait apporter la blockchain, non pas tant pour faire de la spéculation, mais pour comme application métier, application professionnelle. Et on s'est dit que on a compris les mécanismes que je décrivais tout à l'heure, hein, ces mécanismes avec du faux contenu, du faux émetteur, etc., etc. Et on s'est dit que l'une des solutions, c'était de pouvoir tracer une information.
Et du coup, la certifier.
Et la certifier dans la blockchain, parce que la blockchain, exactement, ça permet de tracer une information, tracer un fichier, tracer une donnée de façon inaltérable, quoi. Voilà. Alors, quand on a dit ça, on s'est dit, ouais, ben d'accord, mais blockchain, on va parler de blockchain à des patrons d'ERP ou de DIRCOM, c'est pas forcément très vendeur, ils vont nous dire, bon, laissez tomber, on a autre chose à faire, etc., etc. Donc, l'enjeu principal, ça a été non seulement développer une technologie robuste, mais ça a été aussi de la rendre la plus facile à utiliser. C'est-à-dire que d'un côté, le responsable de com, le responsable de relations investisseurs qui certifie, ben il faut qu'il prenne, on va dire, il certifie son communiqué, son rapport annuel quand il diffuse ça aux médias. Il le glisse dans son WeTrust Protect à lui. Ensuite, il le diffuse par tous les moyens qu'il veut. Et le destinataire, quand il le reçoit, s'il a un doute, il le glisse dans WeTrust Protect, le site qui est ouvert, où on n'a pas besoin de s'inscrire, où c'est gratuit, etc., pour vérifier en temps réel si ce document est authentique et si son intégrité n'a pas été altérée. Voilà en gros comment... Et donc techniquement...
Alors sans... justement Jérôme, oui. Parce que... Moi, j'écris depuis des années sur Superception que intellectuellement et même en matière pratique, les blockchains sont beaucoup plus intéressantes que les métavers. Et je trouve que, mais que malgré tout, l'inconvénient majeur des blockchains, c'est ce que tu as expliqué dans ton pitch au DIRCOM, c'est que c'est pas toujours très aisé à appréhender. Donc, je trouve que votre application est super intéressante par rapport à ça, parce que un, elle met en valeur une application tout à fait porteuse des blockchains, et deux, vous avez arrivé à la simplifier de manière à ce que ça devienne entre guillemets quasi grand public. Donc est-ce que tu peux juste comme tu allais le faire d'ailleurs, je t'ai sauvagement interrompu pour faire ce petit préambule, est-ce que tu peux expliquer en termes simples aux gens qui nous écoutent et qui connaissent moins bien la blockchain, comment justement le caractère inaltérable et donc l'absence de preuve de confiance permet de faire fonctionner votre solution?
Alors oui, pour faire simple, je suis responsable de com, j'ai une annonce à faire, et mon annonce, appelons ça, je sais pas, une campagne ou un groupe de contenu, j'ai mon communiqué, j'ai mon rapport annuel, j'ai deux infographies en format JPEG, j'ai une vidéo. C'est-à-dire, j'ai des fichiers numériques.
Voilà.
Ces fichiers numériques ont un ADN. Chacun d'entre eux a, un ADN, c'est-à-dire ce qu'on appelle des métadonnées qui sont uniques par fichier. Je prends ces 4 ou 5 fichiers, je les glisse dans WeTrust Protect. Donc WeTrust Protect prend ces documents, on aspire l'ADN, donc on aspire les métadonnées de ces documents, on les crypte et on génère un hash dans Ethereum. Alors pour faire simple, c'est une empreinte digitale en gros, hein, une empreinte digitale unique dans la blockchain. Ensuite, on diffuse cette information. Alors quand je dis on, l'équipe com diffuse cette information, ça peut être par mail, ça peut être mettre ces éléments en téléchargement sur leur site, ça peut être je le partage sur un tweet, enfin voilà. Je peux diffuser par le moyen que mon moyen habituel. Et le destinataire, s'il a un doute, parce que tiens, cette information elle est bizarre, je m'attendais pas à ça, ou ah tiens, les résultats sont très négatifs alors que je pensais qu'ils allaient être positifs, ou ah tiens, il y a machin qui s'est fait virer, ah dis donc, mais je lui ai parlé il y a 15 jours, c'est quand même bizarre, etc. Quand il y a un doute, le destinataire peut prendre ce document et puis le glisser dans le site wistrustprotect.com. C'est le site de vérification qui est accessible à tous. Et là, la technologie va faire l'inverse, c'est-à-dire on va aspirer les métadonnées du document qui glisse dans WeTrust Protect, et on va comparer les empreintes digitales. Et on va se dire, est-ce que ce document match avec, enfin l'empreinte digitale du document reçu et qui est dans les mains du journaliste match avec l'empreinte digitale du document qui a été diffusé par l'équipe com. Si ça match, on dit, ce document a bien été certifié par Total Energy, par Schneider Electric, par Crédit Agricole. Et si ça matche pas, on dit nous ne sommes pas en mesure de vous certifier que ce document est authentique. Veuillez vérifier à sa source. On ne dira jamais qu'un document est faux. Un document peut être vrai, mais ne pas avoir été certifié. C'est-à-dire un client peut avoir oublié, par exemple. Voilà. C'est une manière automatique de vérifier une information en temps réel. Oui, ça j'ai omis de le dire, mais l'un des enjeux Il y a des systèmes de certification dans la blockchain qui existent déjà pour les contrats, par exemple. Il y a même des systèmes pour les diplômes maintenant. Il y a tellement d'arnaques aux diplômes que. Mais le problème, c'est qu'un communiqué de presse, une information financière, il faut qu'elle soit vérifiable là maintenant tout de suite. Je l'envoie, je peux vérifier dans la seconde qui suit. Donc ça, c'est une vraie contrainte, c'est-à-dire que pouvoir certifier un contenu dans la blockchain de façon instantanée. Nous, on appelle ça de la certification flash pour qu'il puisse y avoir une vérification dans l'instant. Voilà. Alors que quand on certifie des contrats, on s'en fiche un peu. On certifie un contrat, il peut être vérifié 3 heures plus tard ou le lendemain.
Alors, explique, pour aller un pont plus loin, pourquoi la blockchain est indispensable pour faire ça ? Parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre pour les gens qui connaissent pas bien cette techno.
Alors, tu sais, comment dire ça dans des termes simples ? En gros, c'est une preuve, c'est-à-dire hacker la blockchain. Alors, je suis peut-être pas très bien renseigné, mais quand même, je ne pense pas qu'il y ait eu de cas dernièrement de contenu qui a été hacké dans la blockchain. Le principe étant d'héberger par petits blocs des contenus sur une infinité de serveurs. Hein. C'est ça le principe. Donc, si je vous ai
d'ailleurs, d'où la chaîne de blocs.
Voilà. Donc, hacker un serveur, c'est pas super compliqué. Hacker 2 serveurs, bah, c'est un peu plus compliqué. Hacker une infinité de serveurs, ça devient quand même très très compliqué. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que c'est une preuve. Pourquoi le faire dans la blockchain ? Parce qu'à la limite, on pourrait dire, on va le faire autrement, on va mettre un code barre ou un QR code sur un document, etc. Mais fabriquer un faux QR code, c'est très facile.
Ouais, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est très facile. C'est pas si facile que ça. Mais l'autre point, c'est que quand on a de bonnes interfaces dans la blockchain, c'est-à-dire quelque chose de simple à utiliser. Il n'y a pas de mécanique de téléchargement d'une application qu'on va utiliser pour aller scanner un barcode ou des choses comme ça. Il n'y a pas. Donc, ça va plus vite, tout en maintenant cette certitude que le document que j'ai en main est bien le document qui a été diffusé. Pardon.
Non, j'allais dire, Jérôme. Donc, en fait, votre solution, c'est une sorte d'assurance confiance. Pour les organisations qui vous utilisent.
On peut le dire, on a un client qui a décidé d'utiliser WizTrust, qui nous a dit, bon, écoute, Jérôme, c'est comme un incendie, quoi, en fait. Payer des assurances, c'est une plaie, ça coûte toujours trop cher, etc. Alors, je lui dis, mais non, WizTrust, c'est pas très cher. Et il me dit, non, mais tu as raison, on va s'abonner, on va prendre WizTrust Protect, parce que si jamais il y a un problème, au moins, on pourra démontrer qu'on a fait quelque chose, qu'on a pris une initiative, qu'on a utilisé une plateforme de confiance, et que grosso modo, s'il y a un problème juridique et qu'on nous accuse d'une fake news qui a été publiée par un média, on pourra toujours dire, écoutez les gars, on a fait notre part du job. Faut pas oublier une chose quand même, c'est que le règlement général de l'AMF, je suis sûr que tu le connais par cœur, Christophe.
Pas du tout.
Règlement.
Bon. Je te rassure.
Ce qui est donc je ne connais pas la portée, enfin le régime juridique, est-ce que c'est un décret ou enfin peu importe, c'est opposable aux entreprises, hein. Et dans le règlement général de l'AMF, il y a un article de mémoire 228 quelque chose qui indique très précisément que les entreprises sont responsables de la fiabilité des informations qu'elles diffusent, de pouvoir assurer que la source est authentique, etc., etc. Il y a une obligation.
C'est ton meilleur outil de marketing, du coup.
Mais on peut le dire. Alors malheureusement, le règlement général de l'AMF, tout le monde ne le connaît pas par cœur, mais voilà.
Je suis sûr que tu le mets en haut de tes slides.
Mais c'est intéressant parce que le régulateur, il a quand même identifié que c'est pas forcément 100% la faute d'un journaliste quand il y a une fake news qui est publiée. Ça peut être aussi la responsabilité de l'émetteur qui a rien fait pour aider le journaliste à faire son job correctement. C'est trop facile de dire c'est la faute aux médias. C'est trop facile. Ça peut être, effectivement, il peut y avoir une intention de nuire, il peut y avoir, ok, mais dans la plupart des cas, effectivement, les médias se font manipuler aussi.
Alors, donne-nous quelques chiffres peut-être sur Wistrust aujourd'hui, sur l'entreprise. T'en as donné un premier dans notre échange liminaire quand tu disais que vous étiez présent dans 60 pays. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffres qui sont publics sans révéler des secrets industriels sur, je sais pas, le nombre de contenus que vous protégez, le nombre de clients, le nombre de connexions de la part des médias, peut-être la taille des revenus. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu communiques que tu peux nous dire?
Alors, malheureusement, sur les revenus, on n'est pas très bavard.
J'essayais pour la forme, mais bon.
Dans la mesure où on n'a pas l'obligation de le faire, hein, on n'est pas une société cotée. On a la chance d'avoir des investisseurs dans notre capital, bien sûr, mais on n'est pas une société cotée. Un premier chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 30% du SBF 120, donc des grandes sociétés cotées en France, qui utilisent Wistrust pour certifier et ou pour distribuer leur information. Parce que Wistrust, c'est aussi la diffusion, hein, comme je le disais tout à l'heure.
C'est l'héritage de Wistopic.
Voilà. Et ça reste vraiment une techno qui est, c'est notre plateforme, c'est une plateforme qui est utilisée par beaucoup de nos clients, hein, clairement. Donc 30% en gros des entreprises cotées en France. Ensuite, des certifications de documents, il y en a de plus en plus. Et alors, te dire combien il y en a par jour, c'est difficile. Moi, j'ai
de grandeur juste qu'on se rende compte.
Plusieurs centaines.
D'accord.
Nos clients certifient pas 200 contenus à la fois. Ils certifient des contenus qui sont des contenus critiques. Hein. Alors, on leur recommande de certifier tous leurs contenus tous les contenus qu'ils diffusent. Mais une entreprise cotée, y compris une très grosse entreprise sur le haut du CAC 40, c'est pas une entreprise qui envoie 5 communiqués par jour. Hein, très clairement. Donc, sur la partie corporate et financière, on est à plusieurs centaines de certifications par jour. Et puis des vérifications de l'autre côté, qui est un vrai sujet. Parce qu'on nous objecte parfois en disant, si les investisseurs vous connaissent pas ou si les journalistes vous connaissent pas, comment ils vont faire pour vérifier? Ils sauront pas. La réponse est simple, c'est l'émetteur. Il y a un petit logo Wistrust sur la plupart des communiqués des sites internet des clients qui utilisent Wistrust. Et c'est pas pour faire notre promo. Le fait d'indiquer au destinataire de l'information que s'il le souhaite, il peut vérifier, c'est leur manière d'accélérer ou de limiter le risque d'une fake news en disant « Hey, regarde, tu vas pouvoir vérifier sur Wistrust que ce document vient bien de chez moi. » Voilà. Et on fait aussi, on a également des actions de sensibilisation dans les rédactions. On a fait des réunions dans des rédactions. On a aussi des accords avec certains médias. Hein, on a signé un contrat avec Les Échos, avec le groupe Les Échos. Ça n'oblige pas les journalistes à vérifier tous les communiqués certifiés. C'est pas du tout l'objectif. Mais quand il y a un doute, c'est que les journalistes ou les investisseurs soient amenés à vérifier pour.
Et vous êtes partenaire de Euronext aussi, il me semble.
Oui, c'est un partenaire. On a Euronext promeut Wistrust et on travaille beaucoup aussi avec les services d'Euronext, notamment tout ce qui est webcasting, etc., qui sont des services de qualité. Et ça remonte à quelques temps maintenant. Mais notre principal actif, si j'ose dire, c'est le nombre et la qualité des utilisateurs. J'ai cité quelques noms tout à l'heure, mais il y a effectivement, on a des clients qui sont des boîtes impressionnantes, hein, des boîtes impressionnantes, et que si ces entreprises considèrent que notre technologie est fiable pour leur permettre de lutter contre la désinformation, c'est pour nous la preuve principale qu'on est là pour résoudre un problème.
Bien sûr. Alors, petite question prospective, Jérôme, avant d'en arriver à la question de l'actualité pour conclure notre échange. On voit avec les développements de l'IA génératif que demain, finalement, il n'y a pas que les contenus corporate qui vont être à risque, mais il y a aussi les contenus individuels. Donc, est-ce que tu envisages un jour un Wistrust B2C pour certifier les contenus que les internautes vont mettre en ligne sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Ou est-ce que c'est une hypothèse qui ne vous caresse pas encore l'esprit aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, notre technologie le rend tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible. On peut, monsieur tout le monde, tu peux, toi, aller vérifier. Non, pas t'abonner pour certifier, mais aller vérifier qu'un contenu qui t'est destiné.
Ah non, mais moi, je parlais de vérifier mes contenus à moi, internet.
Alors, donc, toi, certifier tes contenus. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas choisi cet axe pour pas mal de raisons. D'abord, tout bêtement pour une raison économique, c'est-à-dire que notre marché et le marché que moi je connais, c'est le marché des grandes entreprises, c'est le marché de la com corporate, etc.
Et c'est pas donc, le même go-to-market.
Voilà. Et puis sur la part, mais c'est pas complètement exclu parce que tu as raison. On va arriver bientôt dans une situation où avoir confiance dans un contenu, quel qu'il soit, pouvoir avoir confiance, c'est-à-dire pouvoir s'assurer que ce contenu vient bien d'où il vient, enfin en tout cas la source qui est indiquée sur le document est la bonne, c'est un vrai bénéfice pour monsieur tout le monde. Pour l'instant, ça n'est pas dans nos cartons, mais c'est tout à fait possible de le faire. Il faut simplement ensuite avoir une manière de faciliter la certification, donc de démultiplier les outils pour que monsieur tout le monde puisse l'utiliser à des prix qui sont des prix abordables pour monsieur tout le monde.
Jérôme, comme tu le sais, tous les épisodes du podcast Superception se terminent par une question liée à l'actualité. Donc nous, il y a une passion commune que nous avons qui est l'Europe. Et donc, voilà, je te donne la parole pour nous parler des prochaines élections et échéances européennes, au-delà même des élections d'ailleurs.
Alors, j'ai pas du tout vocation à donner des instructions ou des... Pas du tout, du tout. J'essaye de faire en sorte, chaque fois que j'ai l'occasion d'en discuter avec qui que ce soit, allez voter. On voit le contexte un peu compliqué en ce moment. Il se trouve que le contexte économique, ou en tout cas des grandes entreprises avec lesquelles je travaille, est moins challengé, en tout cas pour l'instant. Mais très clairement, je pense que... pour des gens comme nous, hein, d'un point de vue purement professionnel, le marché européen est une excellente nouvelle, hein, une très très bonne nouvelle qui nous permet de nous développer rapidement. Et en tant que citoyen, je pense qu'on a une grosse responsabilité. On sait que beaucoup de choses sont décidées à Bruxelles. Allons élire les gens qui vont nous permettre de maîtriser ce qui va être décidé.
Voilà, quel que soit le sens dans lequel les gens veulent voter.
Alors ça c'est pas du tout mon. Je n'ai aucune instruction de vote à donner. Je sais pour qui je vais voter, mais ça me regarde. Je suppose que tu sais aussi et ça te regarde. Voilà, mais non, allez voter.
Voilà, bah écoute, c'est sur cet appel civique, Jérôme, que nous allons conclure cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé.
Merci Christophe.
Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.